midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, ça veut dire à votre santé naturelle ce matin. Et j'ai le plaisir de recevoir le docteur Martine Cotina. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Alors ça me fait toujours très plaisir de vous recevoir. J'aimerais bien que tout le monde ait la chance de vous voir. Vous êtes en rose aujourd'hui. Vous êtes assorti à la couverture du livre que vous venez nous présenter. Vous êtes médecin gastro-entérologue, diplômé de nutrition et de micronutrition. Et pour ceux qui connaissent un peu votre histoire, vous êtes retourné sur les bancs de la fac pour apprendre ces deux matières. Et vous êtes là pour nous parler de soigner les diverticules naturellement chez Thierry Soucard. Il faut dire que vous avez quand même l'art de vous emparer de sujets dont tout le monde se moque un peu pour les populariser. Mais les diverticules, c'est quand même pas un sujet qui affole, on va dire, la médecine.
C'est sûr que c'est un sujet qui ennuie beaucoup les patients. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu un peu les aider.
Ouais. Moi, je ne savais même pas que ça existait, les diverticules. Et je vous l'ai dit, non, avant que vous n'écriviez ce livre, je ne connaissais même pas le mot. Alors, ça c'est, en fait, finalement, c'est un livre qui vous était inspiré par votre pratique.
Oui, exactement. C'est-à-dire que j'en ai vu des patients qui avaient des diverticules, puisque c'est une pathologie extrêmement fréquente, qui touche beaucoup les personnes, surtout qui prennent de l'âge. Et donc, je les ai vus très ennuyés. C'est comme un petit peu ce que je marque dans l'introduction. À chaque fois, j'avais des tas de questions. Et docteur, est-ce que je vais refaire des crises? Et docteur, qu'est-ce que je peux manger quand je suis en crise? Quand je suis après la crise, est-ce que j'ai le droit de manger ça? Est-ce que voilà, on va en reparler, bien sûr. Mais ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que... Voilà, donc je me suis dit, ben voilà, un livre pour répondre à leurs questions et pour les aider. Et surtout pour les aider à prendre conscience que même quand on a des diverticules, puisqu'ils sont très fréquents, mais qui restent silencieux, ben peut-être aussi qu'il faut aussi faire attention à son mode de vie pour éviter d'avoir une complication plus tard. Voilà.
Ça, c'est un peu le message général de tous vos livres.
Voilà.
L'hygiène de base, voilà. Ça vous maintient en bonne santé.
Exactement.
Et c'est valable pour toutes les pathologies, et notamment les pathologies digestives dont vous vous occupez.
C'est l'objectif, effectivement, de tous mes conseils.
Bon, alors, diverticule, on va faire un petit peu de vocabulaire. Diverticule, diverticulite, diverticulose, maladie diverticulaire. Alors, le diverticule, c'est quoi?
Alors, diverticule, c'est une petite poche, une petite sorte de petite hernie qui emporte la muqueuse, la sous-muqueuse, qui passe à travers une couche musculaire. Donc, ça fait un petit sac, en fait, qui passe à travers la couche musculaire de l'intestin.
D'accord.
Un petit sac.
Mais c'est situé
où? C'est fermé, le petit sac, c'est dans le côlon.
D'accord.
Et la plupart du temps, c'est dans le côlon sigmoïde, surtout chez nous.
Donc, c'est le bas.
C'est la partie basse du côlon.
Basse du côlon.
85-90%, c'est dans le sigmoïde, dans la partie basse du côlon. Voilà, en occident.
Ça a quelle taille comme petite poche? C'est vraiment...
Ah, ça peut être tout petit, de quelques millimètres, et ça peut être un peu plus gros, jusqu'à un centimètre. Oui, ça...
D'accord. Ça pourrait faire penser, alors vous me dites si vous êtes d'accord avec ça, Martine, est-ce que ça ressemble à un polype?
Alors, ça ressemble pas à un polype, parce qu'en fait, un polype, quand on fait une coloscopie, un polype, c'est une petite boule. Et quand on fait la coloscopie, on voit que le diverticule, c'est un petit creux, c'est un petit orifice, parce qu'en fait, c'est le petit orifice, et derrière...
Il y a le sac.
Il y a le sac, voilà. Donc, en fait, nous, on ne peut pas se tromper en coloscopie.
D'accord, ouais.
Voilà.
C'est pas la même chose, en fait.
C'est pas la même chose du tout, et ça n'a pas du tout le même potentiel évolutif, ni la même évolution.
Oui, parce qu'une des questions, et vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, mais une des questions que vous posez vos patients, c'est est-ce qu'il y a des risques de cancérisation?
Bien sûr, est-ce qu'il y a des risques de cancer?
Des diverticules, c'était quand même très angoissant.
Bien sûr, c'est angoissant. Toutes les pathologies sont un peu angoissantes, parce que le cancer fait encore peur un petit peu, et donc du coup, effectivement, à chaque pathologie se pose cette question.
Et alors, est-ce que la réponse est aussi affirmative ou négative que ça, pour ce qui concerne les diverticules?
Par rapport au cancer?
Oui, par rapport à la cancérisation. Que disent les dernières études, justement, par rapport à ça?
Les études, elles sont très disparates, comme d'habitude. Hein, c'est-à-dire, elles se contredisent, hein, mais ça, c'est habituel en médecine. Hein. Donc, mais on a quand même de plus en plus d'études qui montrent un lien important entre l'augmentation des polypes lorsqu'on a des diverticules. Donc déjà, on sait que le
polype... Donc il y a un lien entre les deux.
Ouais. Déjà, on sait que le polype, c'est quand même un précurseur du cancer. Bon. Donc déjà, on a quand même pas mal d'études qui le montrent. Et puis après, en termes de cancer, on a vraiment les deux. Donc on a des études qui disent que non, et puis il y a des études qui montrent qu'il y a un lien. Donc, il va falloir être prudent en attendant qu'on ait des réponses un petit peu plus importantes, encore plus fréquentes, des études plus importantes. Ben, il va falloir être prudent. Et là, donc, on a quand même des recommandations en termes de dépistage, notamment quand les gens ont fait une complication de la diverticulose, c'est-à-dire qu'on appelle la diverticulite. Donc, quand la diverticulite est en plus compliquée, eh ben, on doit faire un dépistage, effectivement, pour rechercher les polypes et le cancer à distance de la crise de diverticulite.
Et là, la fréquence du dépistage, c'est quoi? C'est 2 ans?
Alors, la fréquence, c'est-à-dire le suivi après du dépistage, ça va dépendre de ce qu'on va trouver, en fait. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on va trouver, des antécédents du patient. En fait, ça sera variable en fonction du contexte.
Mais c'est quoi? C'est 2 ans, 3 ans? C'est quelle fréquence?
Alors, si donc au départ, on le fait la première fois.
Ouais.
Et si on trouve des polypes, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans, ça dépend de la taille du polype, de la nature histologique, c'est un polype hyperplasique, un polype adénomateux, donc voilà. Ça va dépendre un peu aussi de la nature du polype, c'est un peu compliqué. Voilà.
Alors, on revient au diverticule, puisque l'émission leur est consacrée. On a vu ce qu'était un diverticule.
Oui.
Alors, diverticulite, tout ce qui finit en it, ça veut dire que c'est inflammation.
Inflammation avec plus ou moins infection. Voilà, diverticulite. Diverticulose, c'est avoir des diverticules, mais pas symptomatiques.
C'est ça la différence.
Voilà.
D'accord.
Donc, maladie diverticulaire, c'est toutes les complications. C'est lorsque la diverticulose se complique, en fait. Voilà.
D'accord. Alors, la diverticulite, c'est l'inflammation. Quelle est la fréquence, à peu près, des diverticulites par rapport aux gens qui ont des diverticules?
Voilà. Donc, il faut savoir que les diverticules, c'est très fréquent. C'est à peu près, quand on a plus de 80 ans, c'est plus de 75% de la population. Donc, c'est important. Et ça augmente avec l'âge. Donc, le risque...
Mais avant 75 ans, c'est quoi? Ça veut dire qu'à partir...
Ça va augmenter progressivement.
Ouais.
Voilà, ça va augmenter progressivement.
Mais l'âge où ça bascule, c'est quoi, par exemple?
Alors, on commence...
50, 60 ans, c'est...
On commence à en voir avant, on en voyait très peu avant 45 ans, et on commence à en voir. C'est-à-dire qu'avec le mode de vie qui a changé, on commence à voir l'âge qui se rajeunit, justement. Donc, on trouve des formes avant 45 ans, alors qu'on ne les trouvait pas avant.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez 40 ans de pratique de la gastro-entérologie, et donc vous avez vu les Français changer.
Oui.
Leur corps se changer et les pathologies changer.
Oui, arriver beaucoup plus tôt dans leur vie que ce qu'on voyait avant.
Et donc là, c'est 45 ans, donc ça veut dire que c'est jeune.
Oui, c'est jeune. Quand on a des diverticules à cet âge-là, c'est jeune, oui.
Et comment on sait qu'on a des diverticules? Est-ce qu'il y a un examen qui permet de valider qu'on a des diverticules? Est-ce qu'il y a des...
Et justement, c'est ça le petit truc, c'est qu'il n'y a pas d'examen qui permet de dire, voilà, vous avez des diverticules facilement. Il faudrait faire un lavement baryté. Vous voyez, quand vous avez une diverticulose silencieuse, vous n'avez rien qui attire pour aller faire des examens. Si par contre vous subissez un lavement baryté, là on va voir les diverticules.
C'est quoi un lavement baryté?
C'est une radio de l'intestin comme on faisait dans le temps. Là on n'en fait plus, on fait des coloscopies de dépistage. Quand on fait une coloscopie de dépistage, là on dit au patient, là vous avez des diverticules. Et souvent ils l'ignoraient puisque la plupart du temps ces diverticules restent silencieux.
Donc ce qui veut dire que la plupart des gens l'apprennent par hasard parce qu'ils sont allés faire une coloscopie.
Exactement, ça se passe comme ça en pratique. Sauf si ils se compliquent. Et à ce moment-là, là, on va faire le diagnostic d'une manière différente.
Alors, vous l'expliquez dans votre livre, majoritairement, les diverticules, c'est une maladie qui est discrète.
Oui. Oh, c'est 80-90%, c'est énorme. Et comme ça touche une grande partie de la population, effectivement, le taux de complication de diverticulite que vous m'avez posé tout à l'heure, c'est à peu près autour de 5%.
Oh, c'est pas énorme.
Mais compte tenu que c'est une pathologie extrêmement fréquente, eh ben, ça va toucher un grand nombre d'individus. Donc ça devient une pathologie fréquente pour nous, qu'on va rencontrer en cabinet.
Ouais. Et ce que vous expliquez également, c'est que c'est finalement une maladie qu'on pourrait confondre avec d'autres maladies ou d'autres pathologies.
Alors la confusion la plus importante, c'est plutôt avec l'intestin irritable. L'intestin irritable, c'est quelquefois associé même à la maladie diverticulaire, et donc ça peut être un petit peu compliqué. Donc on va avoir du mal à le différencier, surtout dans les formes peu symptomatiques, bien sûr. Hein. Dans les formes symptomatiques, il n'y a pas de doute, parce que dès que vous avez des symptômes, on va peut-être en parler, des symptômes de la diverticulite. Donc, dès qu'il y a des symptômes de diverticulite, effectivement, on va faire le diagnostic entre intestin irritable et maladie diverticulaire.
Vous arrivez vraiment à distinguer les deux pathologies.
Oui. Quand il y a une crise diverticulaire, par exemple une diverticulite, ça se présente comme une douleur qui se situe à gauche, avec de la fièvre. Ce qu'on n'a pas on n'a pas de fièvre dans l'intestin irritable. Donc, bien sûr, ça, c'est un signe différentiel. Et quelquefois, il y a des signes un petit peu associés, urinaires ou digestifs, mais c'est surtout ça, la douleur et la fièvre, qui sont des signes très importants.
Ça fait penser à quoi ?
L'appendicite à gauche.
Ah oui, une crise d'appendicite.
Une crise d'appendicite à gauche, oui, ouais. Tout à fait, c'est la classique crise d'appendicite à gauche. Et donc, bien sûr, il faut aller consulter son médecin quand on a ce genre de symptômes, parce qu'on n'est jamais à l'abri de faire une complication. Il y a un risque quand même de complication. C'est-à-dire qu'une fois qu'on fait une crise de diverticulite, d'abord, il faut faire le diagnostic. Et là, le diagnostic, ça va se faire au scanner. Donc, il faut consulter le médecin pour qu'il prescrive le scanner relativement rapidement. Il va prescrire aussi une prise de sang pour voir la numération, la VS, surtout la CRP, pour voir l'inflammation, l'infection.
D'accord.
Et donc, c'est important de faire tout le bilan. Et surtout, avec les examens, ça permet de vérifier que le patient ne fait pas une complication de la diverticulite.
D'accord. Alors, il y a plusieurs types de complications.
Oui.
La plus connue.
L'abcès.
D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme complication ?
Après, vous avez la fistule, bien sûr, qui est la communication entre deux organes. C'est-à-dire entre... C'est un diverticule qui va se perforer, par exemple, dans le vagin, par exemple.
Et donc,
ça fait une fistule.
Vous allez évacuer des matières.
Oui, par le vagin. Mmh. Oui. Donc, c'est pas très fréquent. La complication la plus fréquente, ça restera l'abcès.
Voilà. D'accord.
Voilà.
La péritonite, peut-être.
La péritonite aussi, bien sûr.
Oui.
Ouais. La fistule, la sténose. La sténose, c'est quelque chose de cicatriciel, donc un retrécissement lié à l'inflammation. Et donc, ça, c'est des complications un petit peu tardives et moins fréquentes.
Bien. Et vous êtes là pour nous parler de soigner les diverticules naturellement. Montrez votre livre, Martine. Voilà, vous êtes assortie à votre livre. Voilà. Votre éditeur, c'est Thierry Soucard. Et on en parle jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Martine Cotina qui est avec nous, qui est gastro-entérologue et qui est diplômée de nutrition et de micronutrition, qui vient nous parler des diverticules aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre « Soigner les diverticules naturellement » chez Thierry Soucard et chez vous, HPI. Ça veut pas dire qu'on a un fort potentiel intellectuel, ça veut dire
HPI, qu'on a un haut potentiel inflammatoire.
Ouais.
Ouais, c'est les...
L'inflammation dont vous étiez quasiment une des premières à parler, mais qui est très à la mode aujourd'hui. Hein.
Oui.
Qui est soupçonnée de beaucoup de choses, hein, l'inflammation.
L'inflammation, c'est le lien commun qu'on va retrouver dans toutes les pathologies chroniques actuelles qu'on rencontre. Aussi bien diabète, obésité, maladie verticulaire, maladie de Crohn, intestin irritable. La seule différence, c'est que cette inflammation, elle va être différente, c'est-à-dire avec des niveaux, des graduations différentes selon les pathologies, c'est tout.
Mais on la retrouve partout. Endométriose, hein, aujourd'hui, pour prendre une pathologie dont on parle beaucoup. Qu'est-ce qui amenait les patients qui venaient vous voir pour consulter quand ils avaient des diverticules ?
Qu'est-ce qui les amenait ?
Qu'est-ce qui les amenait en consultation ?
Quand ils venaient, c'est quand ils avaient une crise de diverticulite. Voilà. En moyenne, je les ai voyés pour ça.
Donc, en fait, ils avaient de la fièvre,
Fièvre, mal au ventre.
Et quand vous dites mal au ventre, c'est vraiment très, très mal au ventre ? Est-ce que c'est très soutenu comme douleur ?
Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des patients, ça va dépendre des crises. C'est des douleurs qui sont là, localisées en bas à gauche, qui peuvent diffuser un peu, plus ou moins, au niveau du ventre.
Ouais.
Et effectivement, ça peut être plus ou moins intense.
D'accord. Quand on parle de crise, ça dure combien de temps, la crise ?
C'est-à-dire que quand ils ont une diverticulite, ils vont consulter. Et ça peut durer quelques jours. Et donc, c'est là où on fait l'examen, le scanner, pour voir s'il n'y a pas une complication. Parce que selon l'existence ou non d'une complication, ça va nous orienter vers le type de traitement qu'on va donner. Mmh. Voilà. Qui va aider au patient à se soulager, en fait.
D'accord. Mais sinon, ce qui veut dire que la crise, elle passe pas toute seule.
Pas forcément, non. Ça pourrait, hein, bien sûr, si les gens ils prennent des traitements, etc., antispasmodiques, et s'ils ont une crise minime, etc., oui, ça pourrait. Mais la plupart du temps, il y a besoin quand même d'intervenir au niveau de conseil, enfin, au niveau traitement médical.
Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi les diverticules se forment dans le côlon ?
Alors, il y a plein de raisons. Hein. Il y a, d'une part, bien sûr, la génétique. Hein, mais la génétique, elle a toujours bon dos, mais elle a son rôle aussi à jouer. Il y a une faiblesse un petit peu musculaire qui fait que, effectivement, le diverticule peut passer à travers la couche musculaire. Et puis, il y a bien sûr toute la modification de notre hygiène de vie qui fait qu'effectivement, on rencontre de plus en plus cette maladie. Cette maladie est devenue de plus en plus fréquente avec l'industrialisation et dans les pays développés. Donc, ce n'est pas par hasard.
Mais c'est quoi le lien ?
Le lien,
c'est quoi ? C'est notre alimentation qui a changé, c'est ça ?
Voilà, la modification nutritionnelle qui a entraîné la modification du microbiote, qui a favorisé l'inflammation, etc. Tout ça, ça se mélange, ça se mêle.
Alors, ça s'amplifie. La constipation a souvent été un facteur associé.
Oui, et c'est vrai que là, depuis ces dernières études, montrent qu'effectivement, il n'y a peut-être pas forcément de lien entre la constipation et la crise de diverticulite. Mais en tout cas, il faut mieux éviter d'être constipé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les fibres avaient un atout anti-complications. Donc, ça limitait le risque de complications. Donc, c'est vrai qu'on a tendance, en dehors des crises, à conseiller aux patients de manger beaucoup de fibres pour éviter le risque de complications. Parce qu'en fait, c'est ça. Une fois que les gens ont les diverticules, le but, c'est d'essayer d'éviter d'avoir des complications un jour.
Et ça, un des secrets, c'est d'avoir une alimentation riche en fibres.
Oui, c'est vraiment un des secrets.
Ouais.
Très important. Pour protéger son microbiote protecteur. Parce que le microbiote protecteur, il va protéger non seulement, bien sûr, de toutes les maladies qu'on rencontre, que ce soit les maladies diverticulaires, mais aussi toutes les maladies, l'obésité, le diabète, etc. Donc, il est impliqué dans toutes les pathologies. Donc, bien sûr, il faut le nourrir comme il faut. Il n'y a pas d'autre solution que de lui apporter sa nourriture préférée, que sont les fibres. Bien sûr, il y en a d'autres produits intéressants pour le microbiote. On en avait déjà parlé lors des dernières interviews.
Mais on les rappellera tout à l'heure parce que c'est toujours bien.
C'est tellement important.
C'est toujours bien de faire des rappels. Certains médicaments et certaines classes de médicaments sont accusés de favoriser les diverticules.
Les diverticulites surtout, les complications diverticulaires. Alors par exemple, vous avez les anti-inflammatoires. C'est les premiers auxquels on pense.
C'est paradoxal. C'est quand même paradoxal. Bah, oui. C'est-à-dire que des anti-inflammatoires soit accusé de favoriser l'inflammation.
Ben oui. Mais c'est sûr que, voilà, les problèmes des anti-inflammatoires, c'est qu'ils augmentent la perméabilité de l'intestin. Et donc, ils favorisent l'inflammation par ce biais-là, l'inflammation par un biais indirect.
D'accord. Il y a d'autres médicaments, hein, d'autres classes de médicaments
oui,
qui
il faut
sont.
Faire
alors,
attention.
Il y en a une que vous connaissez bien.
Voilà, les inhibiteurs de la pompe à protons.
Les fameux IPP.
Les IPP qui sont anti-reflux, donc voilà, dont il faut se méfier. Alors, c'est pareil, il y a des études contradictoires, hein, comme d'habitude. Et donc, il faut faire attention surtout à éviter les IPP si on n'en a pas franchement besoin. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui les achètent parce qu'ils sont en vente libre. Donc, si on a un reflux. Ben, je les invite à aller voir, à lire mon livre « Soigner le reflux naturellement » parce qu'en fait, on a vraiment beaucoup de bons résultats avec l'approche naturelle du reflux.
J'étais persuadé que c'était l'URGO, moi, qui vous avait amené au diverticule, en fait.
Non, c'est les RGO qui m'ont amené à la nutrition parce qu'en fait, j'ai vu tellement de bons résultats avec le traitement naturel que ben, ça m'a intéressée et que j'ai été plus loin et que j'ai voulu en savoir davantage.
Ouais. La viande rouge aussi accusée.
Oui, la viande rouge accusée de risque de diverticulite. Donc, elle augmente le risque de diverticulite, c'est-à-dire d'inflammation. Quoi. Et donc, oui, elle est dans le collimateur et on a pas mal d'études aussi hein, qui le montrent. Donc, faire attention à limiter cette consommation de viande rouge.
Et puis, il y a aussi le poids. Alors, le poids ennemi.
Ah oui, le poids est un ennemi. Le poids augmente le risque de complications et ça, on a beaucoup d'études qui le montrent. Mais le poids, quand il est augmenté, il augmente pas simplement le risque de diverticulite. Hein. Il augmente le risque de toutes les pathologies. Hein. Maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, toutes les pathologies. Donc, on a intérêt effectivement à surveiller un petit peu son périmètre abdominal, surtout son IMC certes, mais aussi surtout son périmètre abdominal.
Alors, je sais que quand vous êtes arrivé tout à l'heure avec beaucoup de délicatesse, vous avez voulu mesurer le périmètre abdominal de l'agent Fofo, qui ne s'est pas laissé faire d'ailleurs, hein, qui a résisté. Qu'est-ce que vous appelez le périmètre abdominal?
C'est mesurer le tour de taille, en gros, quoi.
Mais là, ce que vous montrez, c'est pas la taille, hein.
Mesurer le tour de taille. Alors, comment on mesure le tour de taille, Philippe? Je vais vous l'apprendre. C'est-à-dire qu'on palpe le rebord de la dernière côte, là. On palpe le rebord supérieur du bassin, là, le rebord osseux du bassin, qui est la crête iliaque. Et entre les deux, vous avez un petit creux.
Ouais.
Et voilà, il faut se placer là au milieu, dans ce petit creux. C'est ça, le tour de taille.
Et alors, avec un bon vieux mètre?
Avec un vieux mètre ruban souple, pas un mètre de bricoleur, hein, un mètre ruban souple, qu'on va utiliser le matin, à jeun, quand on est un peu tout nu. Et on va surveiller ça une fois dans le mois, à peu près.
Et de quoi ce tour de taille est-il l'indicateur?
C'est l'indicateur d'un excès de graisse abdominale. Et cet excès de graisse abdominale, eh ben, c'est lui qui favorise toutes les pathologies. Parce que s'il est associé à une augmentation de l'inflammation au niveau de l'organisme. Et plus il y a de la graisse abdominale, plus l'état inflammatoire va augmenter et plus il y a de risques de maladie.
Bon, alors, rassurez-vous, il n'est jamais trop tard pour bien faire.
Exactement. On peut toujours arranger la situation, quel que soit son âge.
Mmh. Ça, c'est important de le dire. Hein.
C'est important.
Voilà, parce qu'on peut toujours agir. Certaines personnes se disent, de toute façon, à mon âge, je vais rien changer.
Eh ben non.
J'y change rien et c'est pas vrai.
Ça se modifie très vite et vraisemblablement, le microbiote est en cause dans cette histoire puisqu'en fait, il se modifie très vite avec les modifications nutritionnelles. Donc, il est probable qu'il joue aussi un rôle important dans ce fait que vous venez de dire.
Mmh. On parle beaucoup, depuis le Covid notamment, de la vitamine D. Mais oui. En quoi la vitamine D serait un allié en prévention?
Ben, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'avoir un taux bas de vitamine D pouvait favoriser le risque de diverticulite et que même plus le taux était bas, et plus la crise pouvait être sévère. Donc oui, faites attention, surveillez votre taux de vitamine D, surtout en hiver, lorsqu'on ne s'expose pas au soleil et qu'on ne fabrique pas sa vitamine D.
Bon, rassurez-vous, la grande majorité de vous, d'entre vous qui nous écoutez et qui avez des diverticules, vous resterez silencieux.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que si on est silencieux, finalement, on peut continuer la Dolce Vita?
Alors non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces facteurs de risque qui favorisent donc le risque de complications, ce sont les mêmes. Ce sont des facteurs environnementaux, hygiène de vie, alimentation. Tous ces facteurs-là, ce sont les mêmes qu'on va retrouver dans toutes les pathologies chroniques qu'on rencontre à l'heure actuelle. Donc peut-être que ces gens ne feront pas de crise de diverticulite, mais qu'ils vont faire un AVC, un infarctus. Donc c'est pas mieux non plus. Donc c'est pour ça que c'est bien de toute façon de corriger son hygiène de vie.
Ça, c'est le message qu'il faut faire passer.
Oui.
Ce matin.
Très important.
Voilà. Corriger votre hygiène de vie.
Corriger votre hygiène de vie, ça veut dire corriger son alimentation en priorité, mais aussi tout son mode de vie, c'est-à-dire faire attention à ne pas dîner trop tard, faire attention à faire de l'activité physique, à limiter la sédentarité, etc. etc. Donc tout ça, c'est très important.
Les diverticules piègent volontiers les matières fécales dans leur sac. On appelle ça des fécalines. C'est fréquent,
fécalites,
ça? Des fécalites, pardon.
Oui, c'est fréquent, oui, bien sûr. C'est banal, il y a un petit trou, les matières, elles se glissent et puis elles rentrent dedans. C'est fréquent quand on fait des coloscopies. Même lorsque les colons sont nettoyés, eh ben, on retrouve encore des petits morceaux de sel comme ça, nichés au sein des diverticules.
Mais,
c'est fréquent.
Mais est-ce que ces matières fécales sont dangereuses finalement pour la santé?
Alors écoutez, a priori non, on ne pense pas que ça soit le lien direct avec les diverticulites, même si on pense que ce n'est pas toujours bien qu'il y ait des résidus de sel dans des poches parce que ça peut favoriser des petites proliférations de bactéries, des petits traumatismes locaux, mais on ne pense pas franchement que ça soit responsable des crises. Directement, du moins.
Alors, il y a plusieurs on va dire, types de maladies des diverticules. Il y a ce que vous appelez la SUD.
Ah oui.
Ouais.
Alors, la SUD, c'est quelque chose d'intéressant.
SUDD, pour voilà. ceux qui aiment bien googler. La SUD. Qu'est-ce que la SUD?
Alors, en français, ça veut dire maladie diverticulaire non compliquée, mais symptomatique. Un peu, vous voyez, quelque chose d'un petit peu inhabituel. Donc, qu'on pourra expliquer.
D'accord. Non, vous pouvez l'expliquer. Hein. C'est parce que l'agent Fofo vous fait des signes affreux qu'il faut vous arrêter tout de suite. Il passera pas à la mesure de son abdomen. Donc la suite, c'est quoi?
Donc en fait, c'est une pathologie qui n'est pas toujours approuvée par les chercheurs. C'est-à-dire que certains pensent que c'est une maladie qui existe et d'autres pensent que c'est une... En fait, que c'est un intestin irritable, que ce n'est pas forcément une SUD, voilà, par exemple. Donc, en fait, pour l'instant, elle n'est pas reconnue universellement par tous les médecins. Donc, on en parle davantage dans les pays anglo-saxons, par exemple. Ouais. Alors, la différence entre une maladie diverticulaire symptomatique, non compliquée, qui est la SUD, et un intestin irritable... Là, ça va être un petit peu différent parce que du coup, il n'y aura pas de fièvre puisque c'est une maladie non compliquée. Mais il y aura des douleurs.
Il y aura des symptômes.
Et il y aura des symptômes. Ouais. Alors là, on pourrait effectivement avoir une confusion avec l'intestin irritable. Surtout que les deux pathologies s'associent volontiers. Et donc là, ça nous complique un petit peu le tableau.
Martine Cotina est notre invitée. Je rappelle que vous publiez Soigner les diverticules naturellement. L'éditeur, c'est Thierry Soucard. Vous êtes notre invitée jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, j'espère que vous saurez tout sur les diverticules, ou enfin presque tout sur les diverticules après cette émission. Le docteur Martine Cotina est avec nous, médecin gastro-entérologue, et je rappelle que vous publiez Soigner les diverticules naturellement chez Thierry Soucard, naturellement, parce qu'aujourd'hui, les nouvelles recommandations disent qu'on ne doit pas forcément médicaliser les diverticulites, voilà, et donc les mettre sous anti-inflammatoires, antibiotiques.
Pas tous les cas, voilà. Pas tout le monde.
Mais qu'on peut avoir une approche naturelle, c'est ce qu'on verra avec vous. On parlait tout à l'heure des différentes formes de maladies diverticulaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à part cette maladie qui n'était pas reconnue par tout le monde?
À part la SUD.
À part la SUD, ouais.
Alors après, il y a des pathologies, oui, mais la SCAD, etc., ce sont vraiment des pathologies qu'on rencontre très, très, très rarement et même plutôt exceptionnellement. Donc, je pense pas que ça puisse
c'est intéresser. C'est pas intéressant. Est-ce qu'il y a moyen de savoir si on fait partie de ceux qui risquent d'avoir des complications rapport à leur diverticule?
Oui, on peut être patient un peu plus à risque. C'est-à-dire si on est, par exemple, immunodéprimé, soit de manière congénitale, soit parce qu'on prend un traitement. Corticothérapie ou immunothérapie, soit aussi parce qu'on a une maladie sévère, hein, par exemple insuffisance rénale grave, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, des insuffisances graves. Si on a une grossesse, hein, on fait partie des gens à risque, hein, donc il faut faire attention. Et puis, j'en oublie une... Il y a encore que les lecteurs liront dans le livre. Tout ça, c'est bien expliqué.
Voilà, sous toutes les formes.
Voilà.
Est-ce que les coloscopies sont contre-indiquées
Si, j'explique. On est à risque si on prend des anti-inflammatoires.
Oui, les fameux, c'est sûr. Ce qu'on disait tout à l'heure.
Oui, est-ce que la coloscopie
est contre-indiquée?
Oui, alors la coloscopie...
J'ai pas compris pourquoi, en fait.
Alors, la coloscopie est contre-indiquée quand on fait une crise, une poussée de diverticulite, c'est contre-indiqué. C'est pas contre-indiqué si on a une diverticulose, mais c'est contre-indiqué si on a une poussée, parce qu'il y a un risque de perforation, tout simplement parce que les tissus sont inflammatoires et plus fragiles, tout simplement.
Et dans quel cas elle est indiquée alors? Donc
elle va être indiquée à distance, c'est-à-dire qu'on la fera plusieurs mois après. Si on en a besoin, on la fera plusieurs mois après, et notamment dans les crises de diverticulite compliquées.
Alors, classiquement, comment est-ce qu'on traitait la diverticulite?
Alors, avant, on donnait tout le temps des antibiotiques. C'était la règle. Quand moi, j'ai commencé la médecine il y a longtemps, on donnait à toutes les poussées de diverticulite, on donnait des antibiotiques. Et les études ont montré que les antibiotiques n'étaient pas forcément nécessaires selon les patients, selon les terrains. Et surtout si la diverticulite n'était pas compliquée. Donc voilà. Et c'est là, effectivement, dans les cas de diverticulite non compliquée chez des gens non fragiles, qu'on peut se permettre de donner des traitements naturels.
Donc, en gros, ils sont indiqués à quel moment, les antibiotiques?
Les antibiotiques sont indiqués surtout s'il y a une forme de diverticulite compliquée. Et sinon, en cas de grossesse, en cas de maladie grave, c'est-à-dire de maladie sérieuse, c'est-à-dire qu'il y a des signes alarmants, à ce moment-là, même si elle n'est pas compliquée, on va donner des antibiotiques. Et en cas de terrain immunodéprimé, comme on a vu tout à l'heure, là, bien sûr, ce sont des gens fragilisés chez qui on va donner les antibiotiques. Voilà.
À une époque, on opérait, est-ce que ça s'opère toujours ?
Alors, on va opérer surtout les cas compliqués où il va y avoir des complications. Par exemple, péritonite, par exemple, des fois fistules, dans des cas de complications. Avant, on opérait facilement, préventivement, pour éviter le risque de récidive. Maintenant, on le fait beaucoup moins, beaucoup moins.
Voilà. Donc, c'est moins indiqué.
Voilà.
Alors, le traitement naturel que vous préconisez, et c'est votre méthode, en quoi consiste-t-il ? Il y a plusieurs étapes, déjà.
Voilà. Alors, il y a plusieurs étapes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement naturel, donc on va parler que des crises non compliquées, de diverticulite non compliquées, sur terrain non fragilisé. Hein, voilà. Et c'est ces patients-là qu'on va pouvoir traiter naturellement.
D'accord. Et avant de vous engager dans toute démarche du traitement naturel, il faut déjà vous assurer que vous pouvez le faire.
Bien sûr. Hein,
vous ne vous lancez pas là-dedans.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Les patients, il a eu son bilan, il a été examiné, il a eu sa prise de sang et il a eu son scanner.
D'accord. Voilà. Il y a un certain nombre de règles de sécurité quand même à respecter. Naturel, ça ne veut pas dire magique.
Tout à fait. Bien sûr.
Il faut le rappeler parce que parfois, il y en a qui pensent que c'est parce que c'est naturel, c'est magique.
Oui, oui, non, non. Et puis naturel, on peut avoir des complications aussi. Et il y a des effets secondaires et des contre-indications.
Donc, quelles sont les différentes étapes que vous distinguez ?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la crise, il y a une crise, le patient, il a mal. Donc, déjà, il faut le soulager. Donc, il va falloir lui donner un traitement qui va soulager la douleur. Un traitement qui va aussi, quand on est en traitement, on est dans ce cas-là, j'aime beaucoup les huiles essentielles à viser un petit peu anti-infectieuses.
Alors par voie orale ou par voie cutanée ?
Non, par voie orale.
D'accord.
Bah, parce que là, il faut quand même aider un peu plus efficacement.
Quelles sont les huiles essentielles ?
Alors moi, j'aime beaucoup l'origan, la menthe poivrée, le citron, j'aime beaucoup ces huiles-là. Je les conseille plus volontiers en petites capsules, en petites perles, c'est-à-dire tout associé pour qu'elles puissent plus facilement être avalées. Dans un second temps, bien sûr, je continuerai par un conseil par des probiotiques, mais pas dans un premier temps. En général, dans un premier temps, je commence par les huiles essentielles. J'aide à soulager la douleur avec de la phytothérapie, des plantes, comme la mélisse, par exemple. Voilà, la mélisse qui soulage bien, qui est antispasmodique, le basilic, etc. Et puis surtout l'alimentation, qui est vraiment qui va jouer un rôle important. Alors les gens sont en crise.
Alors en phase de crise justement, qu'est-ce qu'on consomme?
Et c'est là que les gens vraiment ont des difficultés à savoir qu'est-ce qu'on va faire quand on a mal au ventre en cas de crise diverticulaire. La première chose à faire, c'est de se dire, l'intestin est en souffrance, donc arrêtons de le charger. Donc la mise au repos. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'on appelle le régime liquide, c'est-à-dire pendant un jour ou deux, que des liquides. Alors, tout le monde n'est pas capable de le faire, puisqu'on peut choisir entre le régime liquide, c'est-à-dire juste des tisanes, des bouillons de légumes, parce qu'il ne faut pas non plus déshydrater. Hein. Donc, alors, il faut des bouillons un petit peu avec un peu de sel, des tisanes avec un peu de sucre, etc. Donc, il faut boire pas mal. Et donc, un jour ou deux jours, selon les besoins. Et c'est vrai que l'avantage, c'est que ça soulage rapidement de mettre cet intestin en repos. Après,
donc c'est deux jours.
Voilà, deux jours juste liquide. Par contre, les techniques actuelles, c'est soit on fait le régime liquide, soit on fait le régime sans résidus strict. C'est-à-dire
pourquoi résidus ? Il faut expliquer aux gens pourquoi.
Alors,
pas de résidus.
Alors résidus, c'est surtout les fibres en fait. Voilà, il faut que les fibres qui arrivent dans l'intestin, n'arrivent pas justement à ce moment-là. Parce que les fibres sont des nutriments qu'on ne sait pas digérer. Et donc, ils vont arriver au niveau du gros intestin, là où ils vont être fermentés par les bactéries intestinales. Et donc, le fait de supprimer les fibres va mettre un petit peu au repos quand même cet intestin.
C'est-à-dire que les fibres ne sont pas digérées dans la même partie du corps que les autres aliments.
Voilà, parce que effectivement, les autres aliments vont être digérés par toutes nos enzymes, vont être absorbés au niveau du grêle, etc. Voilà. Donc les fibres, il faut éviter complètement. Donc ça veut dire les fibres, les légumes, les fruits, les légumineuses, pois chiches, lentilles, etc., les oléagineux, amandes, noisettes, et puis les céréales complètes. Voilà.
C'est plus irritant, c'est ça ?
Voilà, c'est pas le moment d'emmener des fibres quand l'intestin est enflammé. C'est pas la peine.
D'accord.
Voilà. Donc là, on peut choisir. Alors moi, c'est vrai que j'aime bien le régime liquide un jour ou deux. C'est vrai que ça soulage très vite. Et puis après, très vite, on prend le régime sans résidu. Sans résidu, en retirant toutes les fibres. Voilà. Très strict.
Donc ça dure combien de temps ?
Alors là, ça va durer quelques jours aussi, en fonction de la clinique, en fonction de ce qui va se passer. Et on va pouvoir élargir ce qu'on appelle le régime sans résidu élargi, où on va rester avec ce régime sans fibres, mais on va permettre au patient de consommer quand même quelques légumes cuits, faciles à digérer, comme par exemple les courgettes, vous voyez, des légumes faciles à accepter. Donc, le régime sans résidus...
Il n'y a pas des pépins dans les courgettes ?
On va les prendre sans pépins.
D'accord.
Ouais, oui, parce que c'est des petites...
Parce que j'ai vu que les pépins pouvaient être les ennemis.
Les petites fines, sans la peau, etc. Bien sûr, on va prendre des précautions, bien sûr. Donc...
Des légumes donc faciles à digérer.
Voilà, mais c'est tout. Mais ça va être quand même assez... On va permettre certaines choses. On va permettre des petites biscottes. On va permettre des petites choses qui vont vous permettre un petit peu de chocolat, qui vont permettre d'arranger la vie. Et là, on va rester à peu près sur du 3 semaines, à peu près. Et puis après, on va élargir progressivement. Mmh. Donc, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai fait plein d'étapes pour justement aller doucement, pour arriver de plus en plus et très progressivement à une alimentation enrichie et protectrice cette fois pour limiter le risque de diverticulite. Mais tout ça, ça se fait par étapes. Et bien sûr, avec les conseils de son médecin, c'est important pour qu'on puisse suivre l'évolution. C'est au fur et à mesure de l'évolution.
Alors, quelles sont les bases de la protection ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des aliments amis ?
Ah bah oui, bien sûr. Les aliments amis, ça va être les fibres, ça va être les huiles oméga-3. Tous les aliments amis du microbiote, ils vont être intéressants pour protéger pour faire de la prévention pour ces diverticules. Donc, une bonne alimentation... avec beaucoup de végétaux, surtout. De végétaux, puisque les régimes végétariens sont protecteurs, à la différence des régimes occidentaux.
Vous parlez de fibres, mais vous expliquez qu'on n'en mange pas assez.
Oui.
Mais en fait, combien il faudrait en manger des fibres par jour ? Parce que ça ne parle pas toujours aux gens d'un point de vue quantité.
Exactement. C'est-à-dire que c'est difficile à calculer. C'est vrai que c'est 25 grammes, c'est le minimum, mais il faut être à 30 grammes par jour à l'heure actuelle. Mais dans les études, souvent, on montre des effets bénéfiques à partir de 25 grammes. Les recommandations, c'est 30 grammes. Et en fait, pour être bien, il faudrait au moins, optimal, il faudrait au moins manger 35 grammes.
Mais c'est 35 grammes c'est par beaucoup, jour ?
Alors, c'est beaucoup. C'est pas 35 grammes de légumes, c'est 35 grammes de fibres. Alors, pour vous donner une idée, par exemple, dans les légumes, vous avez entre 2 et 4 grammes pour 100 grammes de légumes. C'est pas beaucoup. Pour les lentilles, vous en avez un peu plus. Vous avez 8 grammes pour 100 grammes de lentilles. Voilà. C'est pas beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même manger beaucoup de
pour
végétaux.
Pour arriver aux 35 grammes, ouais,
oui.
Faut un peu d'imagination.
Voilà, hein. J'ai fait un menu spécial, vous avez vu, pour expliquer à peu près qu'est-ce que ça fait 35 grammes.
Est-ce qu'il y a des aliments à éviter complètement si on veut se débarrasser des crises ?
Alors, il faut limiter la viande, déjà. Ça, c'est important. Limiter la viande, ça, c'est important. Voilà. Limiter la viande rouge et faire attention à l'alcool.
Ouais. Voilà. La viande rouge, c'est-à-dire, quand vous dites limiter, c'est quelle fréquence ?
Alors, la viande rouge, les conseils du PNNS, c'est moins de 500 grammes par semaine. Mais franchement, les recommandations actuelles de certains experts internationaux nous... conseille quand même pour limiter le risque des maladies chroniques de diminuer vraiment sa quantité de viande. Et dans une étude que j'ai citée où ils ont montré l'effet préventif d'un régime riche en légumes et pauvre en viande, c'était moins de 50 grammes de viande rouge par jour.
Les fruits et les légumes crus, est-ce que ça fait bon ménage avec les diverticules ?
Oui, ça fait bon ménage, mais quand les gens ne les tolèrent pas, il faut suspecter, quand ils n'ont pas de crise, et qu'ils ne les tolèrent pas, c'est là qu'il faut suspecter un intestin irritable associé. Et qu'il faut s'intéresser à cet intestin irritable.
Alors, il y a aussi tout ce qu'il y a des graines. Les fraises, les kiwis.
Oui.
Alors, dans le temps. Les figues, les tomates.
Oui.
Bon, je vous parlais des courgettes tout à l'heure, je vous ai taquiné à cause de ça.
Oui. C'est un peu plus gros. Mais c'est sûr que dans le temps, c'est ce qu'on conseillait aux gens, d'arrêter les petites graines. Et puis on s'est rendu compte, on a des travaux qui ont montré que finalement on peut les laisser consommer ces petites graines. Voilà, donc ils peuvent manger des fraises, ils peuvent manger des kiwis, il n'y a pas de problème quand ils sont en dehors des crises, bien sûr.
Bien. La suite est dans votre livre avec votre méthode, docteur Martine Cotina. Ça s'appelle « Soigner les diverticules naturellement » chez Thierry Soucard. Il y a des recettes en plus. Donc effectivement, comme ça, si vous manquez d'imagination, vous pourrez puiser des idées dans le livre de Martine Cotina. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Je vais vous laisser repartir dans le sud. Vous pourrez poser vos questions au docteur Cotina sous la vidéo qui sera publiée d'ici quelques jours. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Merci d'avoir été avec nous.
Merci Philippe.
Et passez,
merci à tous.
Avec beaucoup de plaisir, ça fait toujours un plaisir de vous voir. Et puis vous passez une très belle journée. Santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.